J'ai le plaisir d'être avec Huguette Nadal pour la chronique généalogie. Bonjour Huguette.
Bonjour à tout le monde.
Et dans la chronique du jour, vous allez nous rappeler quelques jalons de l'organisation militaire.
Au Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle, l'host royal est composé par des chevaliers, des grands officiers de palais. Elle ne devient qu'une véritable armée avec l'ajout des grands vassaux, avec leurs propres troupes et des milices piétonnes fournies par les villes et les abbés. Le temps de service militaire n'excède pas le temps d'une campagne, puis une convention vassalique réduit ce temps à 40 jours. Le roi est réellement suivi dans ses opérations militaires par des petits vassaux du domaine royal. Les grands vassaux ne rejoignent l'armée qu'en fonction des alliances politiques et des buts guerre. On est tous au courant que la Bourgogne était très longtemps opposée au roi de France.
Bien sûr.
L'Aquitaine aussi, voilà. Donc, ils se joignaient au roi que quand ils en avaient un intérêt certain pour eux.
C'est clair.
Voilà. Alors après, avec Philippe II d'Auguste, les structures militaires se mettent en place. Alors, elles se divisent avec à la tête un prince ou des vassaux regroupés sous des bannières. Le commandant est assuré par le roi, les princes et les connétables, assistés par des maréchaux. En contrepartie, le service militaire royal s'élargit à tous les seigneurs du royaume et le temps de service est supprimé moyennant finances, bien sûr. Les villes prennent en charge leur propre défense et fixent le nombre de combattants qu'elles fournissent, alors que l'Église fournit surtout les chevaux et le matériel.
D'accord.
La guerre de Cent Ans permet une évolution de l'armée. Les grandes compagnies sont employées contre finances, elles fournissent des services de dizaines de professionnels de la guerre, et dans leur démobilisation, elles n'hésitent pas à piller la population et à mettre des provinces à sac. Charles V le Sage entreprend plusieurs réformes, avec notamment l'informalisation des compagnies et l'envoi dans les provinces de gouverneurs du roi. Le connétable devient le chef des armées françaises, devant même les plus grands princes et officiers, mais aussi il est le responsable de la justice militaire. En 1445 sont créées les compagnies d'ordonnance, les premières années permanentes du royaume. Sur la surveillance d'un capitaine, elle mène des opérations militaires en cas de guerre et reste en garnison dans les villes pour assurer la sécurité quotidienne du royaume. Dans le même temps, une archerie appelée franc archer est formée et est remplacée à terme par les artilleurs à poudre. Bien sûr, les armes évoluent, donc on passe du boulet de pierre au boulet à poudre.
Voilà. Il faut que ce soit de plus en plus mortel ou létal.
C'est ça. Dans l'Ancien Régime, bien sûr, l'armée est réformée en profondeur au XVIIe siècle. L'administration civile est gérée par une hiérarchie militaire qui favorise l'avancement et puis qui donne le mérite à la petite noblesse et à la bourgeoisie. Bon. Une ébauche de conscription est mise en place avec de la milice provinciale. Une armée de réserve composée d'hommes tirés au sort, le service d'host est convoqué pour la dernière fois en 1703.
Donc
ça a duré un certain moment.
Mmh.
Après, ça a créé des secrétariats d'État à la guerre, qui fait que la charte de connétable est supprimée en 1627. Le rôle du secrétaire d'État est celui d'un simple exécutant, responsable des comptes et de l'exposition des ordres militaires pour certaines armées seulement. Tout au long du XVIIe siècle, les attributions du secrétariat augmentent et il y a plusieurs attributions militaires qui sont faites au milieu du XVIIIe siècle. Les charges deviennent purement honorifiques et le génie de l'artillerie perd leur indépendance. En 1791, il est remplacé par le ministre de guerre, sans continuité avec l'ancienne administration. Alors la hiérarchie militaire commence réellement au XVIIe siècle, lorsque la nomination des officiers devient le privilège du roi et non plus des colonels généraux. Le haut du commandement est exercé par les lieutenants généraux des armées du roi et les maréchaux de camp. Ils sont sous l'autorité du connétable jusqu'en 1626 et des maréchaux. Après, il y a des supérieurs qui sont à la tête du régiment. Il s'agit de colonels de l'infanterie, dans la cavalerie, pour promouvoir aussi des officiers sans fortune et des majors qui sont chargés de la discipline. Les compagnies ont un capitaine, un lieutenant, ils enseignent dans l'infanterie et commandent aussi dans la cavalerie. Ces deux derniers sont remplacés en 1762 par le grade de sous-lieutenant. Et il y a un grade de brigadier qui est créé en 1788, on va dire, entre les officiers supérieurs et les généraux. Au milieu du XVIIIe siècle, le nombre grade d'officiers subalternes sont créés pour favoriser l'avancement au mérite, comme le lieutenant 3e dans l'artillerie, le porte-drapeau dans l'infanterie, le porte-étendard dans la cavalerie, le porte-guidon dans les dragons et le quartier-maître trésorier. La hiérarchie des bas officiers devient adjudant, sergent-major et maréchal du logis en premier pour la cavalerie, fourrier, sergent et enfin maréchal du logis en second.
Merci beaucoup Huguette et la semaine prochaine nous parlerons de la période napoléonienne et bien au-delà. Alors à très bientôt, au revoir Huguette.
À la maison, dans la voiture, au boulot, une seule radio, Liberté FM.